Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour chers auditeurs, nous continuons notre réflexion sur nature et culture. Je rappelle que je m'inspire pour cette série d'émissions d'un livre paru chez Ellipse à Paris qui s'appelle « Comprendre la culture générale » et dont une version électronique est en préparation et sera diffusée, proposée à la vente ultérieurement. Alors, dans la dernière émission, nous avons parlé des postulations de la nature. La nature est faite de pulsions irrépressibles qui nous ôtent toute liberté. Et maintenant, nous allons voir, en comparaison avec ces postulations naturelles, en quoi consiste la culture. J'ai parlé de la passion amoureuse. La passion amoureuse, elle est définie par le terme grec eros, qui veut dire le désir. Et maintenant, je vais voir que à Eros s'oppose une autre notion qui est agapé, d'un terme grec aussi, qui veut dire l'amour non pas possessif mais oblatif, l'amour d'offrande, non pas l'amour vampirisant, mais l'amour de don, Eros et agapé. Donc je dirais que face au monde des pulsions ou au monde naturel dont j'ai parlé la dernière fois, eh bien s'oppose un autre monde, et dans bien des œuvres, ces deux mondes s'affrontent. Par exemple, La femme du boulanger de Marcel Pagnol, d'après Giono, d'après une nouvelle de Jean Le Bleu, de Jean Giono, c'est une admirable allégorie de la culture qui s'oppose à la nature. Vous avez d'un côté l'incendie de la chair, de la passion adultère, puisque lorsque la boulangère entend chanter justement le berger, eh bien elle quitte son mari pour aller justement à l'extérieur du village se donner à lui. Donc cet incendie de la chair s'oppose la tendresse conjugale, où est toute la culture, comme on le voit dans l'admirable discours du boulanger à la fin du film. Et de la même façon, au berger nomade s'opposent les villageois qui sont sédentaires. Les deux univers s'opposent et les enjeux vont bien au-delà du cas personnel de l'héroïne. Alors le boulanger, bien sûr, il a souffert. Il dit à un moment, il faudrait se méfier de ceux qui chantent en italien, car les femmes comprennent toujours l'italien, vous voyez. Donc il refuse de cuire le pain, mais sous l'influence de l'ensemble de la communauté villageoise, il va récupérer la boulangère qui revient prise de remords. Alors que dit le boulanger à sa femme? Il lui dit qu'il y a la beauté, évidemment, et le désir d'essence. Alors je crois qu'il dit à un moment, les Chinois sont tous pareils, tous les nègres se ressemblent. Notez que dans ces années 30, Campagnol écrit, il n'y a pas ce politiquement correct qui nous fait nous méfier d'un langage trop cru. Bon, alors le boulanger dit, bon, finalement la beauté ce n'est rien, c'est un don de la nature, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi le don, il y a aussi l'offrande, il y a aussi le sacrifice de soi. Et cela n'est pas négligeable. Et alors, il y a la belle, le beau couplet sur la tendresse. Le boulanger, aimable, il s'appelle aimable, dit « Et la tendresse, que fais-tu de la tendresse ?» Ce n'est pas le berger qui se serait levé la nuit pour voir si elle dormait, si elle était bien couverte, etc. Ce n'est pas le berger non plus qui lui aurait apporté le petit déjeuner au lit, qui aurait pris plaisir à la regarder manger, etc. Bref, vous voyez que l'on est là dans un tout autre monde que celui des pulsions naturelles. On est dans le monde non pas des sensations, mais des sentiments. Non pas de la passion qui est subie, passion vient de pater pati, qui veut dire subir, mais de l'action volontaire. Et c'est donc un monde substitutif qui n'est pas un pis-aller ou le deuil du précédent. Alors évidemment, si ce monde est le contraire de la passion, pour cette raison, il pourrait ne pas paraître passionnant. Mais on aurait tort de le mépriser. parce que par lui, par agapé, hein, l'amour de don, les hommes se sont élevés au-dessus des déterminismes, ou au moins ont-ils eu l'impression de le faire. Par déterminisme, j'entends ce vers quoi la nature nous pousse. Urget natura, hein, la nature nous pousse. Bon. Je dirais donc qu'il y a d'un côté Eros, ou la pulsion naturelle, et de l'autre Agapé, ou l'amour de don. Alors la fidélité, alors, va prendre un sens qu'elle n'avait pas tout à l'heure, puisque dans la dernière émission, nous avons évoqué l'infidélité constante de Valmont dans Les Liaisons dangereuses, et de Don Juan chez Molière. Qu'est-ce que cela veut dire, la fidélité? Promettre fidélité à quelqu'un n'est pas s'engager à ne désirer que lui ou qu'elle, désirer le désir Eros, ce qui est absurde, puisque le désir ne dépend pas de nous. Je peux très bien aimer ma femme et désirer la première fille qui passe dans la rue, hein. Mais être fidèle à quelqu'un, c'est s'engager à rendre quelqu'un heureux. Donc vous voyez que la fidélité absurde dans une perspective de causalité, parce que, hein, prend son sens dans une perspective de finalité, pour que, voyez, si on promet à quelqu'un de lui être fidèle, ce n'est pas qu'on ne désirera personne d'autre, on s'engage simplement à s'intéresser à quelqu'un. Alors, vous me direz qu'on peut ne pas tenir sa promesse, d'accord, mais qu'on ne tienne pas sa promesse, c'est une toute autre question. Au moins, a-t-on été capable de la faire, de la verbaliser, cette promesse, de la formaliser dans le langage? Alors, le mariage monogamique, qui est une absurdité naturelle, là j'insiste bien, sur le plan de la nature, c'est absurde, hein, mais il s'éclaire maintenant, ce mariage monogamique, à la lumière de l'opposition entre Eros et Agapé. Hein. Je dirais que l'on épouse quelqu'un non pas parce qu'on l'aime, hein, mais bien pour l'aimer. Donc, vous voyez, de ceux qui s'engagent ainsi, on pourrait dire qu'ils s'aiment non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils deviendront l'un par l'autre. Alors interviennent des notions comme le projet, la perspective, le futur, l'anticipation. On quitte le monde de la nature pour entrer dans un autre monde qui est bel et bien celui de la culture. Alors on voit bien cela dans la liturgie latine du mariage. Que dit cette liturgie? Elle dit, le prêtre dit « ego coniungo vos in matrimonium », c'est-à-dire « je vous unis pour le mariage ». Vous voyez, l'accusatif ici, « matrimonium », indique la direction. Et cela veut dire que l'union est à construire, à bâtir. On n'est pas dans le mariage au départ. Il n'y a pas in matrimonio, ablatif, hein, car l'ablatif indiquerait simplement le lieu où l'on se trouve. Hein. Donc, in matrimonium, ça veut dire vous vous engagez pour quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Et malheureusement en français, l'expression « je vous unis en mariage » perd cette notion de la promesse d'un futur, d'une anticipation, vous voyez, hein, d'une vision justement pour l'avenir. Hein. Donc je dirais qu'il ne faut pas ici perdre son latin. Voyez, donc souvent je dis, hein, qu'il faut connaître le latin, essayer de s'en souvenir, hein, c'est une langue d'une extrême précision que le français malheureusement n'a pas. Par exemple, les questions de lieu, hein, ubi, quo, unde, quoi en latin, hein, eh bien en français vous avez dans et on ne distingue pas la direction et le lieu où l'on se trouve. Alors, s'agissant d'agapé ou d'amour de don, on connaît la phrase de Saint-Exupéry, hein, « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, hein, mais regarder ensemble dans la même direction. » Dans cette phrase, l'idée d'intention apparaît clairement. Il s'agit bien d'un projet commun auquel les deux parties doivent travailler. Alors attention, chers auditeurs, attention, regarder ensemble dans la même direction ne veut pas dire regarder ensemble la télévision, hein, ce qui est le sort de beaucoup de couples qui ont basé leur vie sur Eros, hein, et qui s'y trouvent contraints dès lors que Eros, le désir, a disparu du fait de son grand et éternel ennemi, le temps qui passe, hein. Je pense aussi au début du chapitre 7 d'Une vie de Maupassant. Les cartes entrèrent alors dans la vie des jeunes gens, vous voyez, hein, jeunes mariés qui se mettent à jouer aux cartes. Rien de plus fréquent et de plus pathétique que cela. Alors ceux qui ont suivi les émissions que j'ai faites l'année dernière avec Redouane, mon ami Redouane Esbanti, sur Eros et Agapé, se retrouvent ici en terrain connu. Hein, nous avions parlé de mon livre Méandre de l'amour, Eros et Agapé, paru chez Dervy, hein, et nous avions bien analysé la dimension de perspective, hein, qu'il y a justement dans le déroulement d'Agapé. Alors, je viens de voir maintenant en quoi la culture s'oppose à la nature. Eh bien, je dirais que malheureusement, encore aujourd'hui, vous avez des gens qui sont pour la nature. Hein. J'appellerais cette option naturaliste. Hein. Pas du tout le mouvement littéraire dont il est question dans la deuxième moitié du 19e siècle français, mais le naturalisme, c'est l'éloge de la nature. Eh bien, cette mode, hein, aujourd'hui, elle est assez répandue depuis le 18e siècle, hein, elle consiste à faire l'éloge justement de la spontanéité. Alors on parle de la belle nature, on fait l'éloge du naturel. Ce naturalisme ou ce culte de la nature emplit les esprits et les bouches. Il nous envahit dans les slogans, par exemple pour vanter un produit, en publicité on dira « produit naturel », on dira aux gens « soyez naturel », etc. Cependant, je pense que cette position est assez courte. Par exemple, en esthétique, l'art consiste non pas à imiter la nature, mais à la réformer, hein. Prenez une prairie sauvage qui offre une profusion de fleurs. Bon, ben cette profusion est tout à fait désordonnée. Et parfois, cette exubérance végétale nous submerge et nous inonde par son absence manifeste de but ou d'intention jusqu'au malaise et jusqu'à la nausée. Hein. Une prairie sauvage n'est jamais une œuvre d'art. Un bouquet, au contraire, qui est fait par l'intermédiaire de l'art, met de l'ordre dans cette profusion. La nature ne choisit rien, tandis que l'art est choix. Hein, ars homo aditus naturae, hein, comme on disait autrefois en latin. L'art, c'est l'homme ajouté à la nature. Je viens de parler de l'esthétique, mais je pourrais tout aussi bien parler de l'éthique ou de la morale. La nature n'interdit nullement le cannibalisme, l'inceste, la zoophilie, etc. Hein. Baudelaire, dans un texte essentiel qui s'appelle « Éloge du maquillage », qui se trouve dans « Le peintre de la vie moderne », texte paru en 1863, nous dit de nous méfier des idéologies rousseauistes ou autres, hein, du retour à la belle nature entre guillemets bien sûr, puisque nous dit-il, tout l'effort éthique et esthétique de l'humanité s'est toujours fait contre la nature, qu'il ne s'est jamais agi d'imiter. Je vous cite quelques passages de ce texte de Baudelaire. Il est une chanson tellement triviale et inepte qu'on ne peut guère la citer dans un travail qui a quelques prétentions au sérieux, mais qui traduit fort bien, en style de vaudevilliste, l'esthétique des gens qui ne pensent pas. La nature embellit la beauté. Il est présumable que le poète, s'il avait vu parler en français, aurait dit « la simplicité embellit la beauté », ce qui équivaut à cette vérité, d'un genre tout à fait inattendu, le rien embellit ce qui est. La plupart des erreurs relatives au beau naissent de la fausse conception du XVIIIe siècle relative à la morale. La nature fut prise dans ce temps-là comme base, source et type de tout bien et de tout beau possible. La négation du péché originel ne fut pas pour peu de choses dans l'aveuglement général de cette époque. Si toutefois nous nous consentons à en référer simplement aux faits visibles, à l'expérience de tous les âges et à la gazette des tribunaux, nous verrons que la nature n'enseigne rien, ou presque rien, c'est-à-dire qu'elle contraint l'homme à dormir, à boire, à manger, à se garantir, tant bien que mal, contre les hostilités de l'atmosphère. C'est elle aussi qui pousse l'homme à tuer son semblable, à le manger, à le séquestrer, à le torturer. Car sitôt que nous sortons de l'ordre des nécessités et des besoins pour entrer dans celui du luxe et des plaisirs, nous voyons que la nature ne peut conseiller que le crime. C'est cette infaillible nature qui a créé le parricide et l'anthropophagie et mille autres abominations que la pudeur et la délicatesse nous empêchent de nommer. C'est la philosophie, je parle de la bonne, c'est la religion qui nous ordonne de nourrir des parents pauvres et infirmes. La nature, qui n'est pas autre chose que la voie de notre intérêt, nous commande de les assommer. Passez en revue, analysez tout ce qui est naturel, toutes les actions et désirs du pur homme naturel, vous ne trouverez rien que d'affreux. Tout ce qui est beau et noble est le résultat de la raison et du calcul. Le crime dont l'animal humain a puisé le goût dans le ventre de sa mère est originellement naturel. La vertu, au contraire, est artificielle, surnaturelle, puisqu'il a fallu, dans tous les temps et chez toutes les nations, des dieux et des prophètes pour l'enseigner à l'humanité animalisée et que l'homme seul eût été impuissant à la découvrir. Le mal se fait sans effort, naturellement, par fatalité. Le bien est toujours le produit d'un art. Tout ce que je dis de la nature comme mauvaise conseillère en matière de morale et de la raison comme véritable rédemptrice et réformatrice peut être transporté dans l'ordre du beau. Je suis ainsi conduit à regarder la parure comme un des signes de la noblesse primitive de l'âme humaine. Les races que notre civilisation, confuse et pervertie, traite volontiers de sauvages, avec un orgueil et une fatuité tout à fait risibles, comprennent, aussi bien que l'enfant, la haute spiritualité de la toilette. Le sauvage et le baby témoignent par leur aspiration naïve vers le brillant, vers les plumages bariolés, les étoffes chatoyantes, vers la majesté superlative des formes artificielles, de leur dégoût pour le réel, et prouvent ainsi, à leur insu, l'immatérialité de leur âme. Malheur à celui qui, comme Louis XV, qui fut non le produit d'une vraie civilisation, mais d'une récurrence de barbarie, pousse la dépravation jusqu'à ne plus goûter que la simple nature. Vous voyez, la fin du texte fait penser à la fameuse lettre de Valmont que j'ai citée dans la précédente émission, et où s'effondre toute une culture. Cette lettre qui fait l'éloge de la nature en prônant l'infidélité constante. Alors, je m'excuse si c'est, je vous prie de m'excuser si ces textes que je cite vous semblent un peu longs. En tout cas, ils sont fondamentaux. Et le texte de Baudelaire a l'énorme mérite, surtout dans une culture du politiquement correct comme celle où nous nous trouvons, où nous n'osons pas le paradoxe. Ce texte de Baudelaire a l'énorme mérite d'être en marge, d'être fondamentalement paradoxal. Et on a besoin, justement, de textes d'une telle violence pour aller contre le prêt-à-penser. Alors, on nous dit que la culture est une réformation de la nature. C'est vrai, beaucoup ont insisté là-dessus. Malheureusement, ces tentatives de réformation de la nature sont toujours menacées. Vous voyez par exemple des œuvres comme Œdipe roi de Sophocle qui nous montre la tentation de l'inceste, ou bien Pasiphaé de Monterland qui nous montre justement la tentation de la zoophilie. Voyez aussi La Vouivre de Marcel Aimé ou le film de Borowczyk La Bête pour la zoophilie. Voyez La Bête humaine de Zola qui nous montre la tentation du meurtre sauvage. Voyez aussi Vendredi de Michel Tournier, ou bien Rhinocéros d'Ionesco, qui nous montre la tentation de l'animalisation de l'homme. Ce sont là des figures destinales, vous voyez, et alors éclate alors au profit de la nature la barrière des normes et des codes, c'est-à-dire la barrière de la culture. Montrer cette destruction de la culture est souvent une des fonctions de l'art. L'art nous montre autant ce vers quoi l'homme s'est élevé, d'où il est parti, et ce vers quoi aussi il peut encore revenir. Écoutez encore Phèdre chez Racine. aux haines de Vénus, aux fatales colères, dans quels égarements l'amour jeta ma mère, hein. Donc, c'est Phèdre et la fille de Minos de Pasiphae. Il s'agit justement de la scène 3 de l'acte 1, hein. Donc, Pasiphae s'était uni à un taureau, vous voyez, hein. Donc, voilà, la zoophilie, hein. Alors, derrière la rhétorique très euphémisée de Racine, il faut voir la réalité, la monstruosité, hein. Phèdre est la fille du juge des enfers et de la folle qui s'est unie à un taureau, hein, la fille de Minos et de Pasiphae. Alors revenons maintenant sur la notion de futur, hein, qui me semble essentielle pour définir ce qu'est une culture. Je dirais que, en général, la nature ne nous invite nullement à différer dans le temps la réalisation d'un désir par la réflexion que l'on fait d'un inconvénient qui pourrait nous survenir à cette occasion, si vous voulez. Le délai que l'on se fixe alors, ou cette frustration véritablement que l'on s'impose, suppose toujours une distance prise par rapport au monde des pulsions, distance qui est tout à fait étrangère aux lois du monde de la nature. Je vais prendre un exemple simple, puisque j'ai dit au début de cette série d'émissions que j'essaierai d'être simple pour expliquer des choses complexes, hein. Bon, un exemple simple. Supposons que je renonce à une promenade, alors que dehors il fait beau, pour rester chez moi à travailler, par exemple, en vue de la réussite à un examen. Alors je me situe dans une perspective d'anticipation, et je sacrifie un bien qui est actuellement tout à fait accessible à un autre bien qui est celui-là totalement hypothétique, mais que je préfère. Et j'escompte pour l'avenir, justement, que mon choix sera récompensé. Alors ici encore, la prévision et la prévoyance donnent une finalité à ma conduite. Finalité, j'insiste, je l'ai parlé tout à l'heure à propos d'Agapé. Une finalité à ma conduite, et ma conduite va dès lors échapper au déterminisme et aux causalités qui sont des choses seulement naturelles. Je passe, comme disent les philosophes, de l'ordre du désir à l'ordre de la volonté. C'est deux choses différentes, le désir et la volonté. Vouloir vraiment, disent les philosophes, c'est vouloir ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire dire non à son désir. Alors non pas lui dire non définitivement, mais dire non à son désir actuel, par prévision justement d'une gratification future, à quoi mènera mon choix actuellement, vous voyez. Et alors peut-être que l'essentiel du processus de culture est là. La culture serait toujours une sorte de distance prise vis-à-vis des instincts, par exemple, et en ce sens, la culture, c'est le sens du futur qui caractérise tout entière ce processus. Si je dis seulement « demain je ferai cela », je ne suis plus dans la sphère de la nature. Le futur, considéré même comme temps grammatical, définit toute la culture, vous voyez? Et ça, ça me semble essentiel. Nous avons déjà là un bon levier pour définir la culture qui, justement, nous servira dans les émissions futures, hein, où nous parlerons, par exemple, du rôle du langage, des délais du temps que permet la représentation par le langage, parce que ce processus, justement, doit être analysé longuement. Mais je dirais qu'aujourd'hui, en période où, hélas, il y a souvent déculturation, on est dans le hic et nunc, c'est-à-dire le ici et maintenant. On ne s'occupe pas du lendemain. On ne vit plus sur un report de jouissance, hein. La jouissance doit être donnée tout de suite, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Alors, la prochaine fois, nous parlerons justement des relais langagiers qui permettent la vision anticipatrice. Donc, chers auditeurs, je vous dis à la prochaine émission. N'oubliez pas de me retrouver sur mon blog www.michel-theron.fr. Rendez-vous donc à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Theron sur son blog www.michel-theron.fr.